Bonjour à tous et toutes. Donc je vais continuer un petit peu sur la lancée, sur revenir un tout petit peu sur les mécanismes physiopathologiques qui génèrent le syndrome des jambes sans repos pour envisager un traitement adapté pour une médecine de précision si cela est possible à ce jour. Donc je suis professeur d'Ovélier et je dirige le labo de sommeil à Montpellier. Donc comme vous l'a dit Lorraine, si je résume, si vous avez tout bien compris, quand on est en veille, on a des impatiences avec les 4 critères diagnostiques, plus 1 qui est un critère d'élimination d'autres pathologies. Dans 60 à 80% des cas, vous allez avoir des mouvements périodiques pendant le sommeil, définis par des mouvements répétés qui durent peu de temps, 1, 2, 3 secondes, et qui sont séparés de 20 à 30 secondes. Et il faut en avoir au moins 5 par heure, c'est assez discutable selon l'âge. Et dans 30% des cas, ces mouvements périodiques peuvent être isolés, sans syndrome des jambes sans repos, et on peut avoir aussi des mouvements périodiques en veille. D'accord ? Donc c'est un récapitulatif de ce qu'elle vous a dit. Donc les impatiences, c'est un diagnostic clinique, et les mouvements périodiques des jambes, appelés PLM, sont un diagnostic polysomnographique, donc c'est impossible de faire un diagnostic de PLM à la consultation. Donc quand on a ces 4 critères diagnostiques plus ce critère d'élimination, la conduite à tenir qu'on vous propose est la suivante. Est-ce qu'il y a une prise de médicaments qui peuvent être favorisants pour ces impatiences? La prise notamment d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, donc principalement les antidépresseurs, les neuroleptiques qui sont antidopaminergiques, le lithium, je ne parle pas des oligoéléments, je parle du lithium pour traiter les maladies bipolaires, et les antihistaminergiques qui sont assez fréquents, notamment de première génération, comme le Teralen, qui sont des facteurs de risque donc d'avoir un certain nombre de jambes sans repos. Après, on regarde l'examen clinique et paraclinique, s'il y a une maladie de Parkinson, une neuropathie, une polyarthrite, une carence en fer dont on vous a déjà parlé, un diabète, une insuffisance rénale, et s'il y a toutes ces conditions potentiellement associées au syndrome des jambes sans repos, on appelle ça un syndrome secondaire. Si maintenant l'examen clinique est normal, la ferritinémie est normale, quand on dit normal c'est plus de 50, on pourra avoir 75 selon la culture ou les centres, mais entre plus de 50 ou plus de 75, a fortiori. Forme familiale, si âge de début, je vais y revenir, parce qu'il y a deux phénotypes importants selon l'âge de début de cette maladie, et l'évolution relativement lente, là on est dans le contexte d'un syndrome primaire appelé idiopathique. Donc c'est important parce qu'il y a bien deux formes différentes qu'il va bien falloir différencier pour une prise en charge adaptée. Donc au début, on envisage un traitement non pharmacologique, diminuer tous les retentissements qu'ils vont avoir sur le sommeil, donc diminuer le café, nicotine, prise d'alcool, donc là c'est pour la prise en charge de l'insomnie qui est une conséquence majeure du syndrome des jambes sans repos, les médicaments dont on vient de parler qui peuvent aggraver le syndrome des jambes sans repos, et traiter évidemment par fer les gens qui sont carencés en fer, donc moins de 50 ou moins de 75, sur moins de 50 et éventuellement moins de 75 selon la sévérité du problème. Et puis après, on arrive à des traitements médicamenteux qui sont nécessaires à la consultation assez fréquemment. Hein. Il faut traiter les gens, on va dire, sévères et très sévères avec des traitements médicamenteux. Mais en général, nous, c'est quasi 95% de nos patients à la consultation. Parce que s'ils viennent nous consulter, c'est qu'en général, le handicap est important. Donc c'est une maladie fréquente, comme on vous l'a dit. Mais il ne faut pas traiter tous les personnes. Mais les gens qui viennent nous consulter, en général, on est obligé d'envisager un traitement médicamenteux. Donc il y a 3 classes médicamenteuses importantes. Il y a, si on commence par les plus classiques, les agonistes dopaminergiques, je vais y revenir, c'est une classe médicamenteuse avec au moins 3 médicaments, la pregabaline gabapentine, deuxième classe médicamenteuse, les opioïdes, troisième classe médicamenteuse. Les benzos, typiquement le clonazépam, n'a jamais marché sur les impatiences directement, mais indirectement oui, parce que si vous dormez, il n'y a plus de place pour avoir des impatiences, donc ça diminue le fait d'avoir des impatiences, puisque la latence d'endormissement va être plus courte. La L-DOPA, qui traîne encore dans quelques recommandations, notamment germaniques, je vais vous convaincre, j'espère, qu'il ne faut pas l'utiliser. Alors, les recommandations européennes ont été déjà proposées il y a quelques années, 2012, si j'arrive à lire, qui sont, je pense, encore d'actualité, avec des recommandations fortes, la rotigotine, le ropinirole et le pramipexole, qui sont les 3 agonistes dopaminergiques qui ont été largement envisagés dans des études bien faites, double aveugle contre placebo. Deuxième classe médicamenteuse, j'en ai parlé, donc hein, pour les noms, rotigotine c'est le Nepro, ropinirole c'est l'Adartrel ou le Rekip, et le pramipexole c'est le Sifrol. Gabapentine et Nacarbil, on ne l'a pas en Europe, donc on oublie. Prégabaline, c'est le Lyrica, et Gabapentine, c'est le Norontin. Donc les recommandations fortes sont de traiter avec 5 de ces 6 médicaments proposés, puisqu'il y en a un qui n'est pas disponible en Europe. Je reviendrai après sur les doses, mais déjà, retenez qu'il y a donc 5 médicaments possibles dans cette maladie, donc c'est pour ça que le titre était traitement personnalisé, lequel donner pour ces patients. Donc, suite aux recommandations européennes, avec Christelle, qui est, donc, préside cette journée, on a décidé d'éditer des recommandations françaises, cette année j'espère, parce qu'on en a déjà parlé en novembre, donc pour transformer l'essai. Donc on va se baser pas mal sur les recommandations européennes, mais avec des petites spécificités françaises, avec deux points majeurs. Premièrement, aucun remboursement de ces médicaments en France. C'est un point majeur qui, j'espère, on pourra en reparler. Et il n'y a pas d'AMM pour nombre de ces médicaments, je vais en reparler aussi. Donc notamment tout ce qui est gabapentine et prégabaline. Donc pas de remboursement, avant qu'il y ait une question, j'anticipe la question, donc je vous donne la réponse déjà. Les patients disent souvent, c'est pas vrai, moi je suis remboursé, mais c'est parce qu'on ne note pas l'indication sur, quand on fait une prescription, sur ce pourquoi les gens ont cette maladie. Et donc les remboursements sont possibles puisque ces traitements sont donnés dans d'autres maladies, notamment la maladie de Parkinson, mais ils n'ont pas de remboursement spécifique dans cette indication. Il y a une AMM pour les trois, une autorisation de mise sur le marché pour les trois premiers produits, rotigotine, ropinirole, pramitexol, mais aucun remboursement et pas d'AMM pour Lyrica et Norontin. Donc si je vous donne quelques données sur... un exemple par classe médicamenteuse sur la rotigotine, qui est donc un traitement en patch, qui a un intérêt majeur, c'est qu'il dure 24 heures, puisque c'est un patch qu'on décolle chaque jour, et qui permet justement une demi-vie très longue, et un traitement, s'il est peu dosé, donc à 2 ou 3 mg maximum, qui est donc la dose avec le meilleur rapport bénéfice-risque. Si vous augmentez de plus de 3 mg, il y aura à moyen ou long terme un mauvais rapport bénéfice-risque, à moyen ou long terme. À court terme, selon les patients sont contents, mais ça dépend si on peut traiter les patients sur le long terme ou pas. Et cette belle étude, qui est la plus belle étude, puisque c'est une extension à 5 ans, qui montre que le traitement marche en double aveugle contre placebo sur une période de 12 semaines, contre placebo, hein, qui n'est pas le but de cet article-là, parce que les trois traitements marchent, les trois agonistes dopaminergiques, rotigotine, ropinirole et pramipexole, mais c'est la seule étude qui montre un bénéfice durable à 5 ans chez ces patients, vous voyez, 60 mois. A noter cependant que 295 patients étaient à l'entrée dans l'étude et la moitié à la sortie de l'étude, mais c'est la seule étude qui montre un effet bénéfique à 5 ans. Si je reviens sur la diapo d'avant, on voit que l'effet est short terme et long terme pour le Nepro, alors que pour le ropinirol et le pramipexol, on ne peut recommander qu'à short terme, puisque les études n'ont jamais dépassé 3 mois. Donc c'est pour ça que cette étude elle est intéressante avec la rotigotine, puisqu'il y a un effet bénéfique à long terme.